L'édition française a joué un rôle capital dans ma carrière pour faire connaître ma musique et asseoir ma réputation en tant que compositeur. Cela peut sembler étrange, mais c'est pourtant le cas. Sans le travail des éditeurs parisiens qui ont publié mes œuvres, ma musique ne serait pas arrivée jusqu'à vous. En effet, aucun manuscrit n'a survécu, ni lettres, contrats, factures, pas même de partitions. Mon écriture manuscrite est perdue à jamais. Heureusement, j'ai été publié beaucoup. Je vous ai parlé de mes 14 symphonies, mais j'en ai écrit beaucoup plus. Ce qui n'a pas été publié est perdu à jamais. C'est pourquoi je ne remercierai jamais assez les maisons d'édition avec qui j'ai travaillé pour avoir transmis mon œuvre au public parisien et à la postérité. De ce point de vue, j'ai donc eu de la chance. Je suis arrivé à Paris juste au moment où le monde de l'édition parisien explosait. Au XVIIe siècle, ce sont les Italiens, surtout les Vénitiens, qui régnaient en maître sur l'édition musicale. Vers 1700, le centre de gravité s'est déplacé vers les Pays-Bas, avec en tête des villes comme Amsterdam et La Haye. À partir du milieu du XVIIIe siècle, Paris s'impose comme le pôle incontournable. De grandes et petites maisons d'édition fleurissaient partout. Vous pouvez vérifier. Mais je suis convaincu qu'au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, plus de musique a été publiée à Paris que dans tout le reste de l'Europe. Stamitz a fait publier son travail à Paris, et plus tard, Haydn et Mozart ont également établi des contacts avec les éditeurs parisiens. Le marché de la musique nouvelle s'est développé considérablement, et Paris était le centre du monde, comme dans de nombreux autres domaines. De nombreux petits éditeurs se partageaient un marché de niche. Mon premier éditeur, Moria, était une société située dans le faubourg Saint-Germain, où moi-même et une grande partie de mes employeurs vivaient. C'était une petite entreprise qui se spécialisait principalement dans la musique de chambre, bien que j'étais assez fier de mon recueil de symphonies reprises sous l'Opus 1, l'édition s'est malheureusement révélée hâtive et bon marché. Je pouvais y déplorer pas mal d'erreurs, et finalement, 5 ans plus tard, j'ai décidé de rééditer ce même recueil par une autre société. Pour mon deuxième recueil de symphonie, j'ai travaillé avec la société de Françoise Béraud, l'épouse d'un de mes collègues, le compositeur Jean-Baptiste Béraud. Elle avait une réputation sérieuse et publiait des éditions plus soignées. C'était aussi l'éditeur avec lequel Gossec travaillait. En 1767, j'ai fait publier une œuvre de musique de chambre, un trio en ut majeur par la société de Jean-Augustin Granger. Bien que cet homme ait produit d'excellentes éditions à un prix raisonnable, il s'est avéré absolument incapable de gérer ses affaires. Son entreprise n'a jamais réussi à éviter les pertes financières et 3 ans plus tard, il s'est avéré être en faillite. C'est pourquoi mes 6 quatuors à cordes de mon opus 5 ont été édités par une autre société, Le Menu, dirigée par Charles-Georges Boyer, connu pour son grand professionnalisme et ses éditions de qualité. Lorsque j'ai eu l'opportunité de faire jouer mes symphonies par Gossec au Concert des amateurs, j'ai voulu qu'elles soient publiées par le meilleur éditeur de la ville. Louis Balthazar de la Chevardière, un homme au rayonnement et à la réputation internationale, publiait la musique de Stamitz, de Haydn et de Christian Bach. Il était cher, mais Lehmanns le Brugeois méritait le meilleur. L'édition de partitions se faisait toujours aux frais de l'auteur. Cela signifie que le compositeur devait lui-même réunir les fonds nécessaires pour couvrir les coûts de publication. Comme beaucoup d'autres, dans mon cas, j'ai fait appel à mon réseau aristocratique. L'astuce était de dédicacer chaque publication à un aristocrate avec lequel vous étiez en bon terme. Si celui-ci avait confiance en votre talent, il s'enorgueillait que son nom soit ainsi mentionné et circule à travers la musique dans les salons et les milieux culturels. En échange de l'apparition de son nom en gros caractères sur la page de titre, on pouvait s'attendre à ce qu'il assume les frais d'impression. C'est pourquoi presque toutes mes publications sont dédiées à de jeunes nobles qui faisaient partie de mon réseau personnel. La transmission de mon œuvre n'est donc pas seulement le mérite du monde de l'édition parisien, mais aussi des aristocrates, prêts à payer leur honorabilité. Si vous étiez astucieux, vous pouviez également gagner de l'argent grâce à ces partitions. En 1769, j'écris et je publie mes 6 quatuors opus 3. Trois d'entre eux étaient écrits pour flûte, basson, violon et violoncelle, et trois pour hautbois, violon, basson et violoncelle. La distribution instrumentale pouvait être changée et la composition pouvait ainsi être jouée par un quatuor à cordes. Je reconnais que ces changements de disposition peuvent sembler étranges, voire excentriques, mais l'interchangeabilité des effectifs instrumentaux était uniquement motivée par des considérations commerciales. Peu importe quels instruments vous et vos amis jouiez exactement, vous trouveriez toujours une formation qui fonctionne. Je jouais encore de ce procédé dans mes 6 quatuors à cordes opus 5 de 1771. Ils sont composés d'adaptations de mélodies d'opéra célèbres écrites par les renommés André Grétry et François Philidor. Les quatuors à cordes étaient construits à partir des mélodies les plus populaires de leurs opéras fraîchement joués. C'était un moyen pratique et surtout facile de capitaliser sur le travail d'autrui. Ce n'était pas illégal, car il n'y avait pas de droit d'auteur à l'époque. Même Mozart et Beethoven réarrangeraient des mélodies d'opéras célèbres d'autres compositeurs dans des pièces de musique de chambre. Les différentes maisons d'édition musicale parisiennes se livraient une bataille impitoyable. Pourtant, ils changeraient à jamais l'histoire de la musique classique. La grande quantité de partitions diffusées à travers le monde à des prix raisonnables, et ce pour une société de plus en plus sensible à la mode du moment, a fait que les goûts sont rapidement devenus éphémères et que les compositeurs se sont constamment réinventés. Ce qui était écrit à Mannheim, Vienne, Londres ou Bruxelles pouvait être publié quelques mois plus tard à Paris et joué quelques semaines plus tard à Madrid ou à Saint-Pétersbourg. C'est ce qui s'est passé aussi avec ma musique. De nos jours, mes partitions sont disponibles dans des bibliothèques tant à Prague, Stockholm, Milan ou Rome. Comment sont-elles arrivées là-bas? Seul Dieu le sait. Mais si cela n'avait pas été le cas, ma musique aurait sûrement été perdue. Vous voyez donc, ce qui est écrit reste, mais ce qui est publié et vendu reste pour l'éternité.